Ulrich Münstermann, le tueur au camping-car. Narration, Florent Houllier. Ulrich Münstermann est-il un tueur en série? C'est la grande question que se pose le pôle Cold Case de Rennes. Depuis quelques années, les enquêteurs épluchent plusieurs dossiers d'affaires criminelles non résolues. Le nom de ce criminel allemand, Ulrich Münstermann, qui a violé plusieurs femmes dans les années 80 et tué une première fois à Dülmen, est de nouveau prononcé. En 1989, Münstermann commet un nouveau meurtre avéré, en France. Celui de Sylvie Baton, une jeune étudiante de 24 ans. Pour tous ses crimes, il emploie le même mode opératoire. D'abord le viol, puis le meurtre par strangulation. Ce modus operandi est également observé pour d'autres victimes dont on n'a encore jamais retrouvé de coupable. Nous sommes le 13 juillet 1983 à Dülmen, une ville allemande plutôt paisible de près de 50 000 habitants en Rhénanie du Nord. La première femme à avoir croisé la route du tueur s'appelle Karen Oehme. Elle a 25 ans. Au moment de sa disparition, elle est stagiaire dans une clinique vétérinaire. Le soir de son agression, Karen quitte la clinique vers 22h30. Elle s'arrête en chemin dans un snack, se procurer de quoi manger. Elle compte emporter son repas et dîner chez elle à son retour à son domicile. Karen se fait arrêter par la police pour stationnement irrégulier, paye l'amende, continue sa route, puis disparaît dans la nuit. Personne ne la reverra vivante. Le lendemain, sa voiture ainsi que son corps sont retrouvés dans un champ des environs. Karen porte des traces de strangulation et elle a été agressée sexuellement. Le médecin légiste émet l'hypothèse qu'elle aurait pu être violée post-mortem. Un détail qui va revenir dans une autre affaire criminelle quelques années plus tard. Les enquêteurs retrouvent des cheveux blonds dans la voiture de la victime, qui ne lui appartiennent pas, mais également des morceaux de fibres de vêtements. L'enquête démarre dans l'entourage de la jeune stagiaire, plus particulièrement un infirmier de service qui était présent avec Karen quelques heures avant son meurtre. Ce jour-là, il portait un jean bleu, qui pourrait correspondre aux fibres retrouvées dans la voiture, mais il s'avère qu'il possède un alibi solide. La piste du collègue infirmier tourne court. Le meurtre de Karen Oehme mobilise de nombreux policiers. La victime est la fille d'une personnalité importante de la région, un vrai notable, le président du groupe Esso Allemagne. Malgré toutes les recherches effectuées, l'enquête s'enlise. À l'époque, la police allemande ne dispose pas de la technologie suffisante pour effectuer des prélèvements satisfaisants. Mais en 1992, presque 10 ans plus tard, le professeur Bernhard Brinkmann, de l'Institut de médecine légale de l'Université de Münster, décide à nouveau de se pencher sur les traces de sperme qui avaient été découvertes sur le corps de la victime. Les résultats obtenus ne donnent rien. À l'époque, les fichiers des délinquants sexuels ne sont pas encore consignés dans une large base de données. À la fin des années 90, les choses changent. En décembre 2000, le profil ADN du suspect est enfin identifié, à partir des éléments mis sous scellés à l'époque. Le suspect numéro 1 est un Allemand du nom d'Ulrich Münstermann, un violeur en série qui jusqu'alors n'avait pas encore tué. En tout cas, n'avait pas été condamné pour cela. Le profil de Münstermann est étonnant. Rien dans son passé ne laisse penser qu'un jour, il pourrait commettre des crimes. Ulrich est né en 1969 dans une famille catholique de Gelsenkirchen, près de Dortmund. Sa famille a toujours suivi le dogme de l'Église. Lui a fini par ne plus le supporter. Très vite, il s'isole et se consacre à des activités plus solitaires. Il se découvre une passion pour le culturisme. Il idolâtre Arnold Schwarzenegger au point de vouloir lui ressembler. D'année en année, il travaille son corps dans des salles de musculation. Sa carrure est impressionnante. Il fait 1,80 m pour 120 kg de muscles. Pour pouvoir ressembler à son idole, il doit prendre des anabolisants. Non suivi médicalement, il abuse de ce produit dont les effets secondaires peuvent être dévastateurs pour le cerveau. Les stéroïdes sont réputés pour influer négativement sur le comportement, qui peut devenir instable, incontrôlable. Ulrich devient violent, il est pris de bouffées de colère, agissant sous le coup de pulsions irrépressibles. En 1980, il commet son premier viol reconnu par la justice. Il aborde une joggeuse dans une forêt et la viole à l'abri des regards. Il la menace de l'étrangler si elle crie. Ulrich sera identifié, retrouvé et condamné par la justice allemande suite à cette première agression sexuelle ultra-violente. Après le meurtre de Karen en 1983, Ulrich passe son temps à fuir. Il sillonne d'abord les routes d'Allemagne à bord d'un camping-car qu'il achète avec son salaire de réparateur de téléviseurs. Entre 1984 et 1985, il commet deux autres viols en procédant de la même manière. Ses victimes sont des jeunes femmes isolées qu'il menace de tuer par strangulation. Après son dernier viol, il fuit le pays pour rejoindre la France, puis l'Angleterre en 1987. Pendant ce temps, les policiers allemands sont toujours à sa recherche. Son nom est transmis à Interpol. C'est un banal contrôle de la route du côté de Swindon, en Grande-Bretagne, qui va permettre de l'interpeller. Ulrich est condamné une première fois à 3 ans de prison pour les diverses agressions sexuelles commises dans les années 80. À l'époque, il n'est pas encore considéré comme un tueur. Il ne le sera qu'en 2002, lorsque son ADN sera confondu avec celui retrouvé sur sa première victime à Dulmen. Ulrich était alors retourné en Grande-Bretagne auprès d'une femme avec laquelle il s'était marié. Grâce à l'analyse ADN, Ulrich Münstermann est enfin condamné à la prison à perpétuité pour le meurtre de Karen commis en 1983. Dès lors, on cherche à savoir si l'homme n'aurait pas commis d'autres crimes durant sa cavale en Europe, puisqu'il a sillonné la France et l'Angleterre avec son camping-car pendant plusieurs années. Quelques années après sa seconde condamnation, il est suspecté d'un autre meurtre. Nous sommes en France, le 5 mai 1989. Toute la journée durant, Sylvie Bâton n'a pas donné de nouvelles à ses parents. La veille, elle était encore présente dans la maison familiale à l'occasion d'un dîner. La jeune fille est âgée de 24 ans. Elle vit à Avallon, une petite ville à une 60aine de kilomètres d'Auxerre. Ses parents habitent avec son frère une maison dans un village à quelques minutes en voiture de chez elle. Bien qu'elle ait déjà gagné son indépendance, elle reste tout de même toujours très proche de sa famille. Sa mère, Danielle, ne trouve pas normal que le téléphone de sa fille s'en occupait toute la journée. Carlos Ferrer, son petit ami de l'époque, a également essayé de la joindre, en vain. Sylvie et Carlos vivent ensemble sous le même toit. Mais ce 5 mai, il est en déplacement professionnel au Portugal. Aux alentours de 19h, sa mère ainsi que son oncle arrivent devant chez elle. Au début, ils pensent que Sylvie s'est absentée. Le portail blanc est fermé à clé. Puis, ils remarquent quelque chose d'anormal. La porte d'entrée est entrebâillée. La lumière n'est pas allumée. Il est étrange que la jeune femme ait pensé à refermer son portail, mais pas sa porte d'entrée. L'oncle escalade la petite rambarde et appelle sa nièce. Personne ne répond. Il décide d'entrer. La maison est plongée dans le silence. Il appelle une seconde fois. Toujours pas de réponse. En s'avançant pièce après pièce, il constate que quelque chose ne va pas. La porte de la chambre est grande ouverte. À l'intérieur, règne un désordre inhabituel. Lorsque son attention se pose sur la salle de bain, l'homme est saisi d'effroi. Le corps de sa nièce est immergé dans l'eau. Ses jambes dépassent de la baignoire, elle est nue. Ses vêtements déchirés sont éparpillés sur le sol. Il y a du sang. Le témoin quitte la pièce. Il n'a pas d'autre choix que d'annoncer l'horrible nouvelle à sa belle-sœur avant de prévenir les gendarmes.